Chapitre 14. Le transfert s'était révélé nettement plus angoissant que prévu. Une peur atroce s'était emparée de Cyrian. Il avait cru mourir après la double piqûre exécutée par Johannes, happé par un courant inexorable, ailé par l'au-delà. Ses souvenirs défilent tous en même temps, une cascade d'images et de sensations furtives, entremêlées, précises, de la petite enfance aux événements des jours derniers. Il se remémore les visages de sa mère et de son père penchés sur son berceau, une succession de scènes totalement occultées de sa mémoire, son récent oral de biologie moléculaire, sa dernière étreinte, brûlante, presque douloureuse avec Aurel. Il veut crier. Aucun son ne sort de sa bouche. Les liens sont tranchés entre sa conscience et sa chair. Il va crever comme un rat de laboratoire sous le regard froid de Johannes. Il se retrouve soudain 1 mètre au-dessus de son organisme, première étape de la simulation NDE. Un phénomène parfaitement normal donc, mais la découverte de son propre corps allongé dans le cercueil le saisit d'épouvante. Coupé de lui-même, scindé en deux, il baigne dans une solitude et une angoisse indicibles, expulsé de la matière, âme errante, inutile. La tentation le taraude de redescendre dans son corps en catalepsie, puis il perçoit les présences de Johannes et d'Hilaric, l'autre titan, de chaque côté du cercueil. Il se rappelle qu'il s'agit d'une séparation provisoire, d'une expérience volontaire, contrôlée. Il se déplace en direction de la matière noire et alvéolaire qui sépare la salle translation de la deuxième pièce. Étonnante, enivrante également, la sensation de se déplacer avec une légèreté et une fluidité infinie, délivrée de la pesanteur, voguant sur les seuls courants de la volonté. Étrange de constater que la mémoire et l'intelligence fonctionnent sans le cerveau, avec une acuité et une profondeur accrues. Le cerveau, selon la définition de Johannes, n'est que l'interface avec l'organisme, la porte d'entrée dans la matière. Plus de corps, plus besoin de porte, plus besoin de cerveau. De même, une conscience séparée de la chair ne présente aucun intérêt en ce bas monde. L'âme et le corps sont indissociables. Privés de l'une, l'organisme se borne à reproduire les comportements primaires, communs, de l'espèce. Privé de l'autre, l'âme devient une observatrice impuissante, une présence inutile. Après avoir traversé la matière alvéolaire, Cyrian survole un moment le cercueil sans se décider à descendre, à s'installer dans son corps d'emprunt. Le futur vaisseau qui repose dans l'autre pièce, une femme d'une 50aine d'années, au visage fané et aux vêtements de mauvaise qualité, lui inspire méfiance et dégoût. Il refuse de séjourner 4 jours dans un organisme aussi répugnant. Il souhaite, en outre, jouir quelques instants supplémentaires de sa liberté nouvelle, grisante. Il se souvient que les analyses morphopsychologiques ont estimé la candidate parfaitement fiable, que l'aventure, la fabuleuse aventure, ne se représentera pas de sitôt. Johannes lui a recommandé de ne pas perdre de temps, ou son âme, prise de panique, se réfugiera automatiquement dans son corps d'origine. Il se rapproche de la femme, avec une lenteur circonspecte, jusqu'au moment où, capturé par son attraction, exactement comme un satellite par la gravité d'une planète, il se projette en elle et plonge dans une obscurité totale. Reprise de connaissance déplaisante. Il était piégé dans un organisme délabré, à la dérive. La peur, à nouveau, s'était emparé de lui. Et si son corps d'emprunt n'avait pas la possibilité d'assurer le deuxième rendez-vous, s'il tombait malade, s'il mourait, s'il lui prenait la lubie de foutre le camp à des centaines de kilomètres? Il avait sous-estimé les dangers du voyage. Dans ces conditions, 4 jours équivalaient à une éternité. Il s'était révolté, avait tempêté, rué comme un fauve en cage en espérant que son âme s'échapperait de son vaisseau comme elle s'était envolée de son corps quelques heures plus tôt. Une rage inutile. Il n'avait plus de prise sur la matière. Il faudrait leurrer la chair, endormir sa résistance pour opérer le transfert retour. Il s'était rendu compte en tout cas que sa vaine agitation perturbait la femme. Elle s'était arrêtée de marcher, attentive soudain. Les pensées de son hôtesse n'étaient pas claires. Il devinait ses réactions, ses émotions, ses changements d'humeur. Il devait apprendre à se servir de sens qui n'étaient pas les siens. Pour l'instant, il ne discernait pas avec netteté ce qu'elle voyait, sentait, entendait, touchait, goûtait, Il n'avait que des bribes de perception. Les hublots de son vaisseau étaient embués. Il lui fallait un peu de temps sans doute pour opérer la symbiose avec son organisme d'emprunt. Elle était montée dans un train et, au bout de quelques minutes, s'était endormie sur son siège. Cyriane commençait à s'habituer à son nouvel environnement. Johan savait parler d'une phase d'imprégnation sénestique, d'une impression générale résultant de sensations internes non spécifiques. Il ressentait son organisme plus qu'il ne l'explorait. Il s'adaptait à sa fréquence, une vibration basse, de faible amplitude, et peu à peu, les volets de sa demeure provisoire s'entr'ouvraient. Il découvrait l'univers de son corps d'emprunt, un univers tellement différent du sien qu'il aurait pu se croire téléporté sur une lointaine planète ou dans un monde parallèle aux formes, aux couleurs, aux populations, aux mœurs inconnues. La femme s'appelait Mati, du moins c'est ainsi que l'apostrophaient les hommes et les femmes qu'elle croisait dans le couloir sombre et pisseux de son immeuble. Un diminutif, son courrier était adressé au nom de Mathilde Ambiel. Elle habitait l'une de ces cités de la banlieue sud qui semblait abandonnée depuis des lustres. On les laissait pourrir, sans doute pour inciter leurs occupants à déquerpir et lancer des projets immobiliers plus ambitieux et rentables. Mais les pauvres bougres qu'on voulait chasser avaient organisé la résistance avec une opiniâtreté et une efficacité qui avaient pris de court élus et promoteurs. Mati faisait partie d'une association de défense qui se réunissait chez l'un des membres une fois par semaine. On tirait les bilans, on débattait des actions à mener, on parlait avec gravité au début, puis, l'apéritif aidant, avec une vivacité chaleureuse, parfois incontrôlable. Mati vivait seul et buvait en regardant d'un œil morne la télé, un antique poste cathodique au son criard. Elle restait collée aux inepties de la première chaîne, la flemme d'appuyer sur un autre bouton. Elle buvait jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus sur ses jambes et se renverse sur le canapé défoncé qui lui servait de lit. Son passager craignait qu'elle ne soit trop bourrée pour se rendre au second rendez-vous. D'autant qu'elle avait des absences, qu'elle sortait dans la rue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'elle s'arrêtait, à garde, se demandant ce qu'elle foutait là, devant un arrêt de bus ou la porte de l'épicerie du coin. Elle venait d'avoir 52 ans et couvait probablement un Alzheimer. La maladie frappait les gens de plus en plus jeunes. Avec les 300 euros d'acompte, elle avait acheté une quantité invraisemblable de bouteilles d'alcool et réglé à Jafar, l'épicier, les dettes accumulées depuis plus de 3 mois. Elle avait dépensé 240 euros en moins d'un jour. Prodigalité finalement rassurante. Elle avait tellement besoin de fric que la perspective de toucher 1200 euros lui interdirait d'oublier le deuxième rendez-vous et la ramènerait dans le labo clandestin de la confrérie. Mati ne se lavait pas. Son hygiène intime se résumait au frottement furtif d'un gant de toilette vaguement rincé entre ses cuisses et sous ses aisselles. Aucune sensualité, aucun plaisir dans ses gestes. Elle s'examinait de longues minutes dans la glace piquetée de la salle de bain, sans bouger, pétrifiée par la progression fulgurante de la vieillesse sur son visage, par la profusion et la profondeur de ses rides, l'affaissement de sa peau, la blancheur de ses cheveux. Elle observait l'étrangère qui la fixait dans le miroir. Elle essayait de se persuader qu'elles étaient chacune le reflet de l'autre. Elle n'y parvenait pas, séparées l'une de l'autre par des malentendus aux dimensions de gouffre. Elle picorait avec avidité les magazines qu'elle chapardait dans les boutiques ou les salles d'attente, s'identifiant plus facilement aux stars de la télé ou du cinéma qu'à l'image fanée renvoyée par l'implacable miroir. Elle compatissait au malheur des pauvres femmes riches traquées comme des bêtes curieuses par les objectifs des paparazzi, se réjouissait de leur grand bonheur, se désolait de leur petite contrariété, s'inventait des confidences. Elle ne se brossait pas les dents, ne se déshabillait jamais entièrement, gardait sans doute les mêmes sous-vêtements pendant des semaines et pourtant... Pourtant, il se trouvait des hommes qui lui rendaient visite dans son appartement et lui échangeaient un billet de 5 ou de 10 euros, pour les plus généreux, contre une petite gâterie. Bien qu'elle prît la précaution de fermer la porte à clé, ils jetaient d'incessants regards par-dessus leurs épaules, pas tranquilles. Fallait voir avec quelle prudence ils se glissaient hors de l'appartement une fois leur affaire faite. Elle gardait un long moment la saveur amère de leur foutre dans la gorge. Elle ne se rinçait pas la bouche, pas par goût, pas par vice, seulement parce qu'elle était habituée. Le premier jour, Trois visiteurs s'étaient présentés chez elle entre 10 et 13 heures. Un sexagénaire au ventre distendu, un handicapé mental et un noir d'une quarantaine d'années. Elle les avait installés sur le canapé défoncé, avait ouvert leurs braguettes, extirpé leur engin avec adresse et les avait sucés jusqu'à ce qu'ils jouissent dans sa bouche. C'était probablement l'une des raisons de son succès malgré son apparence négligée et la puanteur de son appartement. Elle avalait sans se soucier des conséquences. Léchait jusqu'à la dernière goutte, ne laissait pas une trace de son forfait. Ils repartaient à leur boulot ou chez eux, la queue propre. Cyrienne ressentait ces infimes contractions de dégoût ou de rejet lorsqu'elle s'occupait de ses visiteurs. Elle n'y prenait aucun plaisir. Elle avait même parfois envie de refermer les mâchoires, de trancher leurs bouts de chair avec les dents. Mais elle n'avait pas trouvé d'autre façon de gagner un minimum d'argent. Elle était peut-être infectée par le sida ou une autre horreur. Elle préférait ne pas savoir. De toute façon, la maladie ne gagnerait pas la course de vitesse contre la vieillesse, la solitude et l'alcool. Elle ne recevait pas l'après-midi. Elle allumait sa télé et subissait la litanie abrutissante des programmes tout en feuilletant les revues où s'exhibaient, faussement surprise, ses prestigieuses confidentes. Le jour glissait vers la nuit avec une lenteur désespérante, rythmée par les pubs et les gesticulations braillardes des présentateurs. Elle commençait à boire aux alentours de 17h, un premier verre de vin, qui en appelait aussitôt un deuxième, et un troisième, une première bouteille qui se vidait en moins d'une heure, une deuxième qui s'éclusait un peu plus lentement, puis divers alcools, bière, rhum, cognac, whisky. Elle entrait alors dans une colère rentrée qui paraissait rétrécir son espace intérieur et projetait Cyrianne au beau milieu d'un champ de bataille. Les ténèbres dégringolaient en elle, où se déployaient rancœur, détresse, regret et remords. Parfois, elle pleurait, des larmes nerveuses presque sèches, des hoquets de petites filles abandonnées, désespérées. Puis, elle mangeait des chips, des cacahuètes, des sandwichs, et plus rarement, des plats surgelés qu'elle réchauffait dans le vieux micro-ondes ou encore des pâtes qu'elle agrémentait d'un peu de beurre rance. Le dîner était son seul repas de la journée. Le matin, elle se contentait d'un café soluble tellement amer qu'elle en jetait la moitié dans l'évier. On sonna à sa porte aux alentours de 20h. La journée s'était déroulée comme d'habitude. 2 visiteurs le matin, 15 euros gagnés à la force de ses lèvres, une plongée dans le néant télévisé, quelques verres pour se chauffer, puis une lente descente vers l'enfer du soir. Matisse essuya les yeux d'un revers de manche avant d'aller ouvrir. Une femme se tenait sur le palier, la trentaine, assez forte, vêtue d'un jean taille basse et d'un t-shirt trop court d'où dépassait un ventre blanc et mou. Une chevelure brune relevée en chignon, un sourire faux, un regard sournois, une embrassade mécanique. Cyrianne voyait et entendait si bien par les yeux et les oreilles de son vaisseau qu'à plusieurs reprises, il crut que la nièce s'adressait à lui et se surprit à répondre. Terriblement jouissif de jouer les clandestins, les voyeurs, de s'introduire dans des jardins dont les entrées étaient inaccessibles en temps ordinaire. Les humains ne pouvaient pas savoir ni deviner ce qui se passait en leurs semblables, pas même en ceux qui partageaient leur vie. Il n'y avait sans doute pas d'existence anonyme ou inutile. Même la vie d'une paumée comme Matty était d'une richesse et d'une complexité fascinantes. C'est par sa nièce que Matty avait eu l'adresse du laboratoire de la confrérie. Elle demanda à sa tante si elle y était allée, quand, comment ça s'était passé, s'il lui avait remis une partie du fric, si elle entendait des voix en elle, un truc à vous rendre folle, hein, ils ont prévenu, c'est normal, et puis merde, c'est trop bien payé. Elle lui réclama également le jour et l'heure du deuxième rendez-vous. Matty ne connaissait pas la date par cœur. La nièce insista, avec une soudaine agressivité qui intrigua Cyrianne. Elle s'agitait en parlant, un arbre secoué par des bourrasques. Les bâillements de son t-shirt révélaient une chair blême et tremblotante, un tatouage au-dessus de la hanche, des vergetures en étoile autour d'un nombril orné d'un piercing. Un autre vaisseau. Le titan qui avait voyagé en elle avait certainement découvert des aspects inattendus de sa vie. Cyrianne aurait aimé s'inviter en elle, sauter de vaisseau en vaisseau pour explorer à l'infini cet univers inconnu qu'était l'humanité. Était-ce le début de la dépendance, de la défonce évoquée par Johannes? La nièce se prénommait Coriolis. Un drôle de prénom, un pseudo peut-être. Elle avait déjà dépensé les 1 500 € payés par les techniciens du laboratoire. Elle les appelait les docteurs. « Pas pour moi, hein ? Pour Jimmy, il s'est mis à la coke. Il crame des fortunes dans la poudre. S'il a pas sa dose, ce salaud, il devient dingue. Il me cogne. Il parle maintenant de braquer une pharmacie. Il va finir en taule, sûr et certain. Matty ne disait rien. Elle écoutait, flottant dans les vapeurs d'alcool, subodorant vaguement que sa nièce tentait de lui extorquer de l'argent. Elle ne donnait jamais son avis, elle n'en avait pas. Elle n'allait tout de même pas parler de morale alors qu'elle-même recevait des hommes pour survivre et se fournir en alcool. Elle était indifférente aux autres êtres humains, y compris ceux de sa famille. Il lui fallait vider 2 litres pour commencer à s'apitoyer sur elle-même. Elle se rendait aux réunions de l'association de défense pour se changer les idées et boire en société, mais elle n'en avait rien à foutre de leurs problèmes. Ne comprenait pas leurs discussions, acquiesçait de hochements de tête et votait comme la majorité. Certains hommes, clients occasionnels ou réguliers, lui jetaient des regards craintifs. Une fois Coriolis parti, elle vida quelques verres supplémentaires avant de se lever et de se diriger d'une démarche vacillante vers les toilettes. Elle se soulagea avec un long soupir de satisfaction, remonta sa culotte sans s'essuyer, tira la chasse d'eau, se dirigea vers la porte de l'appartement, enfila ses chaussures et sortit en oubliant d'éteindre la télévision. L'air frais, presque froid, lui fit l'effet d'une gifle. La nuit n'était pas encore tombée. Des nuages roulaient, pressés, menaçants, au-dessus des toits. Le vent ployait les maigres frondaisons des arbres plantés au milieu du béton. Elle croisa un groupe de gosses qui la suivirent en l'abreuvant d'injures. Leurs hurlements lui perforaient les tympans. Elle ne les écoutait pas, marchait d'un pas plus vif, plus assuré entre les façades lugubres. Des silhouettes s'agitaient au milieu des voitures, aux portières grandes ouvertes. Les trafics habituels. Les bandes se regroupaient pour préparer les expéditions nocturnes. Lorsqu'elle s'aventurait ainsi, seule et ivre dans la nuit tombante, Cyriane se sentait à nouveau en danger. Johannes lui avait dit que la confrérie consacrait une partie de l'argent des voyages à la surveillance permanente des vaisseaux. Mais il n'avait pas remarqué de vigile ou de garde du corps dans les parages. Vrai aussi qu'il ne pouvait pas manipuler les yeux de Matty et qu'elle n'avait aucune raison de scruter les environs. Les bagnoles lancées à tombeau ouvert dans les allées du parking la frôlaient. Des junkies affalés sur les marches la fixaient d'un œil torve. Des gamins âgés de 7 ou 8 ans lui lançaient des cailloux. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Que deviennent les âmes lorsque leur vaisseau meurt? À cette question, Johannes n'avait pas apporté de réponse. Est-ce qu'elles finissaient par se décharger comme des piles usagées? Est-ce qu'elles s'envolaient pour un impossible ailleurs? Les cris et les rumeurs de la cité s'estompaient. Matty laissa les bâtiments derrière elle, traversa un terrain vague, rejoignit une autre route 200 mètres plus loin, se dirigea vers un mur d'où dépassaient des croix. Un cimetière. Elle n'essaya pas d'ouvrir la grille d'entrée fermée par une épaisse chaîne. Elle piqua droit vers une petite porte en bois située 30 mètres plus loin, défoncée et rafistolée à la hâte. Elle n'eut aucun mal à l'ouvrir. Elle peinait en revanche à reprendre sa respiration. Elle s'engagea dans une étroite allée pavée de cailloux blancs. S'arrêta, perdue. Se demanda ce qu'elle fichait là, comment elle était arrivée là. Fixa les tombes alignées de chaque côté de l'allée. Ses jambes n'avaient plus la force de la porter. Elle eut envie de se coucher sur le sol et d'attendre tranquillement que la mort vienne l'accueillir. Elle ne bougeait pas. Indécise. Suspendue dans son propre vide. De plus en plus inquiet. Cyriane se demanda si le voyageur clandestin avait la possibilité d'influencer son corps d'emprunt. Une vague de tristesse l'emporta. Mathie, secouée de sanglots, poussait des gémissements à fendre leurs deux âmes.